Décryptage, Nathalie Amar.
Bonsoir à tous. Deux ministres dépêchés pour tenter d'éteindre l'incendie. Mathias Fekl, le ministre de l'Intérieur, et Erika Barèche, celle des Outre-mer. Ils sont en Guyane aujourd'hui et demain. Nous sommes là pour écouter, pour avancer avec des solutions concrètes, disent-ils, 48 heures après la plus importante manifestation qu'ait connue le département d'Outre-mer. 15 000 personnes dans les rues pour un territoire qui compte un peu plus de 250 000 habitants. C'est considérable. Le gouvernement donc prend la mesure d'une crise qui a débuté il y a plusieurs semaines et qui englobe tous les secteurs de l'économie. Antoinette milite à l'UTG, l'Union des travailleurs de Guyane, qui appelait à la grève générale. Elle évoque un mouvement spontané et qui pourrait prendre encore de l'ampleur.
Comme le mouvement est devenu spontané et que tout va mal et que tout un tas de collectifs se sont créés ou existaient déjà, donc on a fait un cahier de revendications global qui comprend tous les secteurs économiques de la Guyane. Et ce cahier-là, donc nous allons le transmettre aux autorités gouvernementales en espérant qu'ils vont nous entendre. Mais il faut savoir que s'ils ne nous entendent pas, ça va aller crescendo. Toujours dans un mouvement citoyen et responsable, mais ça va aller crescendo parce que ça ne peut plus continuer.
À 3 semaines du premier tour de la présidentielle, la Guyane au cœur de toutes les attentions. Alors pourquoi cette crise? Une enveloppe financière peut-elle suffire à y mettre fin? C'est notre décryptage. Bienvenue. Bonsoir Stéphanie Guyon.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Picardie Jules Verne. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur la Guyane en particulier et sur les Outre-mer en général. Alors on va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial, Pierre-Olivier. Vous êtes à Cayenne où vous suivez ces négociations, ou plutôt tentatives de négociations entre les ministres et les représentants du mouvement social qui agite la Guyane depuis un petit moment déjà.
Oui, absolument. Et au moment où je vous parle encore, la Guyane et surtout Cayenne, la préfecture de Cayenne, est très agitée, notamment par le mouvement des 500 frères, ce collectif de citoyens encagoulés qui se font depuis le début de la mobilisation les porte-paroles de la population locale. Ils sont d'ailleurs très soutenus. Ce sont nos grands frères, disent les habitants. Et ces 500 frères savent taper du poing sur la table, disent des habitants. Par exemple, un peu plus tôt dans la matinée, une foule importante s'est regroupée devant la préfecture de Cayenne, où je me trouve. Au même moment, le ministre devait, à l'intérieur de cette préfecture, rencontrer des élus locaux. Mais voilà, face au mouvement de colère encadré par ces 500 frères, les ministres ont accepté de les recevoir avant les élus. Et puis, dans un souci de transparence, les 500 frères ont ensuite demandé à ce que les médias puissent suivre les médiations en direct entre les ministres et les 500 frères. Cette fois, les ministres ont refusé. Et pour l'instant, c'est le statu quo. Difficile même de vous dire à l'heure actuelle si les discussions prévues aujourd'hui pourront avoir lieu. Et du côté des cabinets des ministres, on insiste sur une nouvelle information. Le départ des ministres pourrait être repoussé, non plus vendredi comme prévu, mais plus tard le week-end. Mais ils ne resteront pas non plus 3 semaines si les interlocuteurs refusent de les rencontrer, prévient-on ici.
Une pression forte donc sur les ministres présents aujourd'hui en Guyane. Alors vous, Pierre, vous étiez avant Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. Que pouvez-vous nous dire de l'atmosphère sur place après cette grande manifestation mardi? Vous avez le sentiment que la mobilisation est toujours la même?
Alors écoutez, absolument, oui, déjà, quelque chose de très visible physiquement, ce sont ces barrages routiers qui émaillent toutes les routes du pays, y compris à Saint-Laurent-du-Maroni, à Kourou, sur toute la route. Il y a ces barrages qui sont maintenus aujourd'hui, qui vont être maintenus demain. Et puis, les 500 frères, encore eux, je vous en parlais, ont fait une annonce aussi aujourd'hui. Si les ministres refusent de leur accorder les revendications qu'ils veulent, notamment, je vous en ai parlé, les médias, pour que les médias assistent aux réunions de travail, eh bien les 500 frères menacent de lever tous ces barrages. Pourquoi? Eh bien pour que toute la population de Guyane puisse venir en voiture devant la préfecture ici à Cayenne pour faire pression sur les ministres pour qu'ils acceptent de discuter avec l'ensemble des collectifs.
Pierre-Olivier, l'envoyé spécial d'RFI en Guyane, merci. On vous retrouve bien entendu dans nos prochaines éditions. Stéphanie Guyon, peut-être un commentaire sur ce que vous venez d'entendre et sur la façon assez violente, assez musclée dont démarre la discussion en présence des deux ministres qui ont été dépêchés à Cayenne.
Alors c'est un peu difficile de réagir à chaud comme ça. C'est vrai que depuis le début de cette mobilisation, c'est principalement des collectifs de citoyens et les syndicats qui sont les interlocuteurs de l'État. Et effectivement, on a des élus guyanais qui sont assez en retrait dans ce mouvement, alors qui pour la plupart ont exprimé leur solidarité avec le mouvement. Mais de fait,
ce sont... Puisque soulignait d'ailleurs l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, il y a quelques jours, elle disait maintenant il faut que les élus s'en mêlent, qui reprennent en quelque sorte en main la situation et la négociation peut-être.
Oui, mais en même, enfin voilà, c'est en même temps, c'est vrai que cette mobilisation, elle est partie de ces collectifs. Hein, mais qui et je voudrais quand même juste préciser que on n'a vraiment pas que les 500 frères. C'est-à-dire le collectif Poula Guyane décollée, ça unit donc les 500 frères, mais ça unit qui est un collectif contre l'insécurité, mais de Cayenne. Mais on a aussi les Iguanes de l'Ouest qui sont un collectif de Saint-Laurent-du-Maroni à l'Ouest. On a les syndicats, on a aussi les organisations patronales. Voilà, on a en fait tout un ensemble d'organisations, soit des collectifs qui sont récents, soit d'autres. Des organisations plus anciennes. C'est vraiment pas que les 500 frères. Et je pense pas que... Parce qu'on a tendance, je trouve, à focaliser sur ces 500 frères parce qu'effectivement, ils sont très visibles, parce qu'ils sont encagoulés, donc c'est impressionnant. Très clairement, ce collectif, il n'aurait pas du tout été en capacité de faire des barrages sur la route nationale 1. Voilà, c'est un...
Ils sont sans un soutien plus large sur l'ensemble du territoire.
Sans un soutien des syndicats et d'autres collectifs. Voilà. Voilà, donc je pense qu'il faut, et de la même manière que l'ampleur de la mobilisation là, qui est quand même complètement inédite, hein, donc entre 10 et 20 000 personnes à Cayenne, entre 4 et 8 000 personnes à Saint-Laurent-du-Maroni, on n'a jamais vu ça en Guyane.
Comment justement est-ce qu'on en arrive à cette mobilisation exceptionnelle, à ce ras-le-bol majeur, on peut dire, parce qu'il y a déjà eu quand même des mouvements de protestation en Guyane, mais à ce point-là, numériquement aussi important, vous le disiez, c'est inédit, comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Alors c'est vrai hein, qu'il y a eu des mobilisations et que cette mobilisation, elle ressemble par certains aspects à celle de 2008, hein, le mouvement contre la vie chère en Guyane, mais il n'y avait pas du tout autant de participants aux mobilisations. Et d'une certaine manière, ça restait vraiment circonscrit aux militants de l'UTG, le principal syndicat de Guyane, des partis indépendantistes. Là, effectivement, il y a vraiment une vraie participation citoyenne. Et en plus, une participation qui touche tous les groupes guyanais. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le groupe créole. Là, on a bien vu que les Amérindiens étaient présents dans les manifestations, les Bushinengués aussi, un ensemble de gens qui sont issus des migrations plus récentes. Sans doute que, oui, ça renvoie à une crise sociale qui est latente hein, depuis un an. C'est-à-dire que là, on a cette mobilisation qui a vraiment prise depuis 3 semaines. Mais en même temps, ça fait un an qu'il y a des mobilisations sporadiques sur des enjeux locaux, mais à chaque fois, ça renvoie aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des mobilisations sur l'électricité, sur le problème des pannes d'électricité, qui est un vrai problème. C'est-à-dire qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, donc sur tout l'ouest de la Guyane, ça fait un an que les Iguanes de l'Ouest ils se mobilisent parce qu'il y a eu des pannes d'électricité de 24 heures, que l'hôpital de Saint-Laurent a été privé d'électricité pendant 20 minutes, ce qui pour un hôpital est énorme.
Est insupportable.
Et voilà, donc il y a eu plein de mobilisations comme ça.
Ça signifie qu'il y a, pas continuité finalement du service public sur le territoire de la Guyane et que peut-être même à l'intérieur des Outre-mer, la Guyane a encore un statut un peu à part d'après vous ?
C'est ça. Je pense que l'enjeu majeur de cette mobilisation de mars là et de toutes celles qui ont précédé, qui concernaient l'électricité, la santé, la sécurité, c'est ça. C'est la question de l'accès aux services publics de base.
46 000 personnes qui n'ont pas d'accès direct à un service d'eau potable, d'après ce que j'ai lu, effectivement. Oui. Deux fois moins de médecins qu'en métropole. Et puis un coût de la vie supérieur de plus de 10% à celui de la métropole. Ça a été d'ailleurs, vous le disiez, vous le rappeliez, à l'origine des troubles notamment en 2008. L'eau, l'éducation, la santé, oui. Là-dessus, l'État est beaucoup plus absent là-bas qu'ailleurs, et y compris dans les autres départements d'outre-mer.
Mais oui. En fait, on a à la fois, alors ce que vous disiez là, par exemple, sur la santé, c'est sûr qu'il y a un problème d'accès à la santé. Et en plus, ce chiffre de deux fois moins de médecins, c'est finalement, quand on regarde la réalité du territoire guyanais, c'est bien pire parce que, vu l'immensité du territoire, ça veut dire que quand il y a deux fois moins de médecins, pour un certain nombre de personnes qui habitent loin sur le fleuve, en fait, le médecin, il est à plusieurs heures de pirogue. Ou alors, il est en vol d'hélicoptère ou en vol d'avion. Donc, non seulement il y a peu de praticiens, mais en plus, ça veut dire que souvent, les praticiens, ils sont loin. Et que accéder aux soins, c'est très difficile. Et c'est pareil pour plein d'autres services publics, pour la justice. Il y a à la fois une pénurie de moyens, une vraie pénurie de moyens, et des grandes difficultés d'accès qui sont aussi liées à la spécificité du territoire.
Est-ce que l'État s'est particulièrement désintéressé de ce département-là ou est-ce que c'est le lot de tous les autres départements d'outre-mer, Stéphanie Guyon?
Bah, quand on regarde les indicateurs, il est clair qu'il y a de grosses inégalités entre la Guyane et les Antilles, par exemple. Hein, sur beaucoup de choses, si on, pour l'éducation, par exemple, on a un taux de diplômés qui est deux fois moindre en Guyane par rapport à la Guadeloupe et à la Martinique. Alors, par rapport à Mayotte, évidemment, là, la Guyane est plutôt mieux lotie. Mais oui, il y a des inégalités très fortes au sein des départements d'outre-mer.
Et ça, évidemment... ça tient à quoi? Ça tient à l'histoire ou à la pure géographie? On est sur le continent américain, Amérique du Sud, à la frontière entre le Brésil et le Suriname. Et comment est-ce que ça s'explique, ce désintérêt particulier pour la Guyane?
Bah, ça tient à l'histoire coloniale de la Guyane et à l'histoire du et aussi aux spécificités du territoire. Mais c'est vrai que et puis ça tient aussi hein, à la très très forte croissance démographique qu'il y a en Guyane depuis 40 ans. Parce que il y a
une population qui a doublé en moins de 30 ans. C'est ça depuis 1990 avec un taux de chômage pour les jeunes qui atteint les 40%, 22% pour la population globale.
C'est ça. En fait, depuis le début des années 80, on a une très forte croissance démographique. La population elle a doublé en fait entre 82 et 99, hein, même plus que doublé. Et cette croissance, elle continue. Alors, dans les années 80-90, c'était beaucoup le fait des flux migratoires, parce qu'il y avait la guerre civile au Suriname et plein d'éléments régionaux qui expliquaient ces flux migratoires. Là, on a toujours une immigration importante, mais on a aussi un taux de natalité très très fort. Donc effectivement, la population guyanaise, elle augmente très très vite, et donc il faut accompagner cette croissance. Et pour le moment, c'est pas vraiment le cas.
Un décryptage ce soir en compagnie de Stéphanie Guyon, maîtresse de conférences à l'université Picardie Jules Verne. Il est question de la Guyane où le gouvernement tente, pour l'instant sans beaucoup de succès, de désamorcer la colère après un mouvement de grève générale. Il y a, Stéphanie Guyon, cette question de l'insécurité qui revient aussi très fréquemment dans les témoignages. Ça fait partie de l'image d'Épinal, mais c'est aussi la réalité, clairement.
Oui, bah oui, c'est la réalité effectivement de la vie quotidienne des Guyanais. Oui, il y a un niveau d'insécurité qui est très fort en Guyane. On a beaucoup parlé là du taux d'homicide. Hein. Effectivement, il y a eu 42 homicides en 2016 en Guyane, ce qui est considérable hein, par rapport à la métropole. Mais ce qui est aussi très courant et ce qui crée un vrai sentiment de peur, c'est la fréquence des vols avec armes, c'est-à-dire des braquages à main armée, mais de particuliers. Donc on a 13 fois plus de chances en Guyane de se faire braquer chez soi que ici en métropole. Et voilà, la Guyane, c'est quand même peu peuplée, il n'y a que 250 000 habitants. Et vu l'importance de ce type de fait, ça veut dire qu'on connaît des gens qui se sont fait braquer chez soi. Les violences sexuelles aussi sont très importantes en Guyane, il y a énormément de viols. Voilà, donc on a des atteintes aux personnes qui sont très très fortes dans ce département.
Des atteintes aux personnes très fortes, des ressources naturelles très importantes. Hein. C'est le footballeur Bernard Lama hein, qui disait hier dans Les Échos, on a de l'or, on a du pétrole, de la bauxite, du phosphore, on a une biodiversité incroyable, mais on n'a rien finalement pour exploiter ces ressources. Ça résume bien la situation pour vous ?
Alors c'est compliqué, mais ça dépend vraiment des ressources. C'est vrai que pour l'or, par exemple, l'exploitation de l'or, elle rapporte très peu à la Guyane à cause de l'orpaillage illégal. Et Christiane Taubira avait fait un rapport très intéressant sur cette question de l'orpaillage au début des années 2000, et ce qu'elle disait à ce moment-là est toujours vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle importance de l'exploitation illégale que finalement les retours pour l'économie légale en Guyane, le retour en taxes de l'or, il est très faible, alors que les coûts environnementaux, et pas que les coûts environnementaux, c'est-à-dire toute l'insécurité qu'il y a autour du trafic d'or, sur les chantiers d'orpaillage, les problèmes de sanitaires aussi, hein, parce que là où il y a de l'orpaillage, il y a du paludisme, tout ça. Et donc finalement, oui, les conditions d'exploitation et le fait qu'on n'arrive pas à éradiquer cet orpaillage illégal, ça fait que l'or ne bénéficie pas à la Guyane.
Mmh. Le gouvernement dénonçait il y a quelques jours une instrumentalisation de la crise sociale par les candidats à la présidentielle. Alors c'est vrai que déjà le gouvernement lui-même a mis quelques semaines à réagir à cette crise qui couvait, qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler pendant quelques semaines. Est-ce que vous êtes d'accord malgré tout avec ce diagnostic ? Est-ce que vous avez l'impression que les candidats se précipitent ? profitent pour se mettre en avant sur cette crise, sur cette crise en Guyane.
Oui, alors c'est vrai que les commentaires qui ont été faits sur le fait que cette crise tient à l'insuffisance de ce gouvernement-là, je crois que c'est effectivement une instrumentalisation politique qui a pas beaucoup de sens, parce que je veux dire, ce mouvement, il ressemble beaucoup à celui de 2008, c'était un autre gouvernement, il ressemble pas mal à celui de 96, voilà.
Il y a une certaine continuité quand François Fillon, par exemple, dit il faut plus d'autonomie pour la Guyane et des mesures exceptionnelles pour la sécurité, ça répond à une demande, à une préoccupation là-bas, ou là encore c'est effectivement l'instrumentalisation, de l'exploitation de la
C'était de la donc crise politique. Les mêmes enjeux en 2008 quand il y a eu 3 semaines de mobilisation et des barrages en Guyane, et il me semble qu'à ce moment-là c'était lui qui était aux commandes. Donc
le constat, c'est qu'on ne s'intéresse finalement à la Guyane que quand la colère se manifeste, et que la réponse, eh bien, c'est toujours finalement un chiffre, un chèque et pas davantage. Stéphanie Guyon,
ben c'est vrai qu'il y a un faible intérêt pour la Guyane. Je veux dire, par exemple, ce mouvement, c'est caractéristique, ça fait quand même un mois et demi en fait qu'il y a des mobilisations en Guyane, ça a commencé mi-février, et le gouvernement s'en est saisi très tard, mais même la presse nationale n'a pas fait écho de ces mobilisations avant, voilà, ça fait une semaine qu'on en parle. Même au moment du déplacement de Ségolène Royal, qui a été donc écourté, on n'en a pas parlé au niveau national. Et ça, c'est aussi un problème pour les Guyanais, parce que très régulièrement, il se passe des choses importantes en Guyane qui sont très peu relayées ici en France hexagonale.
Si on essaie justement de réfléchir à la réponse à apporter à ce mouvement-là. Alors c'est vrai qu'il y a la proximité de la présidentielle, du premier tour dans quelques semaines. Déjà, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un handicap pour se pencher sur les problèmes de la Guyane? Et ensuite, comment faudrait-il procéder exactement? Est-ce que cette visite, par exemple, de 48 heures ou même 3 jours peut produire quelque chose de bon et résoudre cette crise, d'après vous?
Bon, c'est difficile. C'est vrai que là, c'est un gouvernement dont les temps sont comptés, donc on ne sait pas tellement ce que ce gouvernement peut commencer pour la Guyane là, dans ce contexte, en sachant qu'on aura un changement de gouvernement bientôt. Mais en même temps, je trouve que ce mouvement, ça permet de rendre visible effectivement tous ces problèmes qui existent en Guyane depuis très longtemps. Et en plus, voilà, l'ampleur de cette mobilisation, je trouve qu'elle légitime vraiment les questions qui sont posées. Et donc, voilà, je pense que si ce gouvernement peut s'engager sur un certain nombre de choses, ils l'ont déjà fait. Hein, ils se sont déjà engagés sur la construction d'un centre pénitentiaire, la création d'un tribunal de grande instance à Saint-Laurent-du-Maroni. Ce qui est important, en fait, parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que le gouvernement est en train de penser à un rééquilibrage des services publics entre Cayenne et l'ouest de la Guyane. Et ça, c'est important aussi, parce que dans ce mouvement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit bien qu'on n'est plus totalement centré sur Cayenne. On se rend compte aussi que la Guyane change, que la population, elle croît à l'ouest énormément, et que donc il faut aussi penser à un rééquilibrage des services publics.
Donc la réponse, elle est là pour vous, développer ou combler les manques des services publics sur l'ensemble du territoire de la Guyane?
Alors, à mon avis, les réponses, elles sont... Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que là, les gens revendiquent un rattrapage en termes de services publics. Mais ils revendiquent donc... Il ne revendique pas que ça en même temps. Parce que le rattrapage, on est toujours un peu en train de penser les choses en termes de retard. Et c'est important effectivement de rattraper, d'avoir une qualité de service public en Guyane comme en métropole. Mais en même temps, ce que disent aussi ces acteurs qui se mobilisent, c'est aussi qu'ils veulent penser des dispositifs adaptés pour la Guyane. Et là, c'est pas que de l'ordre du rattrapage. C'est aussi d'arriver à penser que on est dans une situation pluriculturelle, plurilinguistique, et que les administrations, l'éducation nationale, l'école, la santé, ça peut pas prendre la même forme qu'en métropole. Et là, c'est pas juste de l'ordre du rattrapage. C'est de l'ordre de penser des politiques publiques qui correspondent aux spécificités de ce territoire.
C'est de l'ordre de la réflexion, plus c'est de la réflexion de moyen terme. C'est Merci ça. Beaucoup Stéphanie Guyon d'avoir participé à cette émission, maîtresse de conférence à l'Université Picardie Jules Verne. Merci également à Pierre-Olivier. Un salut à nos auditeurs de Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni qui nous captent sur le 98.7 en FM. Décryptage avec Éléonore Krenik, à la réalisation ce soir Claude Battista. Fabrice Violet, pardon Fabrice. L'émission est à retrouver sur RFI.fr. À suivre dans 10 minutes le débat du jour à l'occasion de la fin du procès de Carlos Anne-Souhaitement, et ses invités se demanderont si cela a un sens de juger des faits plus de 40 ans après. Et d'ici là, dans 30 secondes, les dernières infos sur RFI.
Présidentielle 2017.